Suivez Priorité Santé avec Sunu Assurance Burkina Faso, assureur officiel du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou.
Priorité Santé. Charlie Dupiot.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous parlons de la dépression au masculin. En France, une personne sur cinq fera l'expérience de la dépression au cours de sa vie, avec des symptômes comme de la fatigue chronique, de l'anxiété ou bien une dévalorisation de soi. Et on diagnostique deux fois plus de dépression chez les femmes que chez les hommes. Quand ils vont mal, ces derniers ont moins tendance à aller consulter un psychologue ou un psychiatre. Irritabilité, agressivité, parfois comportements addictifs. Comment s'exprime cette maladie psychique chez les hommes, eux qui sont soumis à certaines injonctions, réussir sans se plaindre, prendre sur soi, ne pas exprimer ses émotions, alors qu'il serait plus accepté quand on est une femme de montrer ses fragilités. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir notre invitée du jour. Bonjour, docteur Sarah Smadja.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, chef du service hospitalo-universitaire du centre hospitalier Sainte-Anne à Paris. Merci d'être avec nous. Un peu plus tard dans l'émission, nous serons en ligne avec le professeur Aïda Silla. Elle est chef du service de psychiatrie à l'université Cheikh Diop, au sein de l'hôpital de Fane, à Dakar, au Sénégal. Et puis, nous joindrons aussi Raphaël Poulain, ancien rugbyman professionnel, qui a coécrit l'ouvrage « Quand j'étais Superman ». Il nous racontera son parcours de dépression et le temps qu'il a fallu pour mettre des mots sur son mal-être.
Priorité santé sur RFI.
Il y a 3 mois, j'ai perdu l'intérêt de la vie. Quelque chose comme la motivation de respirer. Un truc tellement évident qu'on ne se rend pas compte que ça existe, sauf quand on l'a perdu. Ce mouvement en toi dont tu n'as pas conscience, mais qui fait que tu vis pour ton plus grand bonheur, les yeux fermés. Il est 3 heures. C'est l'angoisse, tu dors pas. Attends, mais pourquoi t'es angoissé? T'es angoissé parce que t'arrives pas à dormir? Ou bien t'es réveillé à cause de l'angoisse?
Tu continues comme ça, ta femme va te quitter, elle aura bien raison.
Pas de réponse. Mais l'angoisse, elle s'en fout de tes questions. C'est une angoisse pure, sans objet. Ton cerveau, il est en pilote automatique, en mode évidarc. Tu sais que tu pourras pas te rendormir, parce que la broyeuse est en marche. Les pensées en boucle, ça rumine que de la terreur, du désespoir et de la haine de soi. Comme une ritournelle de film d'horreur. Le pire, c'est qu'à force de n'entendre plus que ça, tu te mets à le croire. Et pendant ce déchaînement de violence dans ta tête qui te fait exploser le cœur et te donne le souffle court, tu restes allongé, immobile dans ton lit. Au moins pour ne pas empêcher ta femme de dormir.
T'es qu'une merde, une loque. Tu pouvais mourir d'une crise cardiaque, ce serait plus simple.
Extrait du court-métrage « Et toi, ça va ?», une vidéo réalisée par la Fondation Pierre Deniker qui travaille à déstigmatiser les troubles psychiques. Et vous êtes secrétaire du conseil d'administration de cette fondation, docteur Sarah Smadja. À l'image, dans ce court-métrage, on peut voir un jeune homme, trentenaire, qui dit qu'il a perdu le goût de vivre. Dans sa tête, il le dit, la broyeuse est en marche. Ces mots sont forts, très forts. Ils incarnent ce que peut être une dépression.
Oui, ils incarnent ce que peut être une dépression au sens large, chez l'homme ou chez la femme. Et alors, je précise juste que c'est un court-métrage qui a été soutenu par la Fondation Pierre Deniker, qui a été écrit et réalisé par Marie-Stéphane Cataneo et le docteur Astrid Chevance. Il y a quelques années maintenant, c'était vraiment important pour elle de parler de la dépression. Alors là, en l'occurrence, c'est une dépression, c'est un homme qui en parle, et il décrit très bien. Je vous invite à regarder ces 8 minutes de court-métrage, mais il décrit très bien ce qui se passe. Et là, ce qu'il a montré, c'est toutes les modifications de l'humeur. Donc, le fait d'avoir une perte d'intérêt, une perte d'envie, puis se surajoute des angoisses, des ruminations, ça l'empêche de dormir. Donc, ça touche ses fonctions instinctuelles et c'est le cercle vicieux.
On en entendra justement un autre extrait tout à l'heure. Il faut peut-être déjà faire attention à ce qu'on va mettre derrière le mot dépression. C'est vrai qu'il peut arriver d'entendre « je suis en dépression, j'ai raté mon examen, mon équipe de foot vient de perdre un match ». Mais la dépression, même si l'usage du mot peut être galvaudé, ce n'est pas une déprime, ce n'est pas un coup de mou.
Tout à fait, c'est pas un vague à l'âme. Il y a des critères pour définir la dépression, c'est des critères très clairs qui sont à la fois de durée et de la présence d'un certain nombre de symptômes. La durée, c'est plus de 15 jours. De la présence de plusieurs types de symptômes. Il y a des symptômes liés à l'humeur, c'est ce que je vous disais, sur l'humeur triste, la perte d'intérêt. Il y a des symptômes qui sont plus liés aux fonctions instinctuelles, c'est les fonctions de base. C'est le sommeil qui va être modifié, l'appétit qui va être modifié et la libido. Et des fonctions psychomotrices, donc là c'est le ralentissement, la pensée ralentie, le débit de parole parfois peut même être ralenti, et puis les mouvements aussi.
Alors on avait déjà consacré une émission dans Priorité Santé sur la dépression au féminin. Aujourd'hui on va parler de celle des hommes. Quels sont des symptômes qui sont justement plus spécifiques aux hommes ?
Alors, les hommes, il faut savoir, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qu'ils ont un accès aux émotions qui est un petit peu différent. En tout cas, ils les expriment moins que les femmes. Et puis, ils sont soumis à cette pression sociale, l'homme qui ne doit pas faiblir, qui ne doit pas montrer ses failles. Et donc, l'expression, elle est plutôt comportementale. Ça se manifeste par beaucoup plus d'irritabilité, plus de comportements inhabituels, de violence, ou des comportements qui sont liés à des addictions, parce que la personne en souffrance va essayer de trouver des moyens pour diminuer son angoisse, par exemple par l'alcool, ou augmenter ses capacités, son énergie avec de la prise de cocaïne. Donc ça va se manifester par des addictions, des comportements plus violents et beaucoup d'irritabilité. Et voilà, c'est ça qui surtout va s'exprimer.
Est-ce que les hommes mettent plus de temps que les femmes à consulter pour une dépression, à aller voir un psychologue ou un psychiatre ?
Alors oui, dans le chiffre de 2 fois plus de femmes qui souffrent de dépression que de l'homme, c'est un chiffre à moduler parce que les hommes consultent moins. Ils consultent moins parce qu'ils se rendent pas compte souvent qu'ils sont en dépression. L'entourage aussi, c'est difficile hein, quand on a une personne dans son foyer qui est moins bien. On rationalise beaucoup. Ah oui, mais c'est parce qu'il est fatigué en ce moment. C'est parce qu'il a changé de travail. C'est parce qu'il y a. Enfin, il y a toujours des raisons. Et l'homme a des difficultés à accepter de l'aide. Il se dit non, mais ça va, j'ai un petit coup de mou en ce moment, mais je vais m'en sortir tout seul, j'ai pas besoin d'aide. Sauf que la dépression, c'est une maladie mortelle. Faut le répéter, faut le dire.
Avec le risque de suicide.
Avec le risque de suicide qui est beaucoup plus important chez l'homme que chez la femme. Il y a 3 à 4 fois plus de chances de mourir de suicide quand on a une dépression et qu'on est un homme que quand on est une femme.
RFI à Paris, 89 FM.
Bonjour Raphaël Poulain.
Bonjour Charlie.
Merci d'être avec nous. Vous avez été rugbyman professionnel et vous avez écrit avec Thomas Saint-Ourens l'ouvrage « Quand j'étais Superman » publié aux éditions Robert Laffont, un livre dans lequel vous racontez les moments de dépression que vous avez traversés. Alors, comment s'est manifestée chez vous cette dépression ? Quels ont été les premiers signes ?
J'ai eu du mal en fait à mettre des mots sur le mot dépression. Comme vous en parliez, c'était un sujet tabou en tout cas pour moi, et j'ai identifié au fur et à mesure les symptômes: peur de sortir de chez moi, inactivité parce que j'ai, comme vous l'aviez dit, j'ai été rugbyman pendant quelques années, et puis du jour au lendemain il faut revenir dans une vie normale après avoir joué un peu ces rôles de héros du genre humain. J'ai fait les calendriers des dieux du stade, donc c'est marqué dessus, quoi, dieu du stade, et puis c'est un peu comme Icare, hein. Plus on s'approche du soleil, plus la chute est dure, et je suis tombé, et je pense que c'était des comportements à risque un peu d'autodestruction aussi, et puis la manière dont j'ai pu aussi manipuler la femme qui était à mes côtés pendant toutes ces années d'introspection et de dépression, je pense que j'ai vraiment identifié mon mal-être quand j'ai fait un burn-out, et j'ai fini à l'hôpital psychiatrique en 2013, voilà, c'était marqué dessus, et puis il a fallu faire un gros travail sur moi, donc la vulnérabilité, accepter d'aller voir quelqu'un, donc un psychologue, pour essayer de comprendre un peu tous les rôles que j'ai joués depuis tout petit, pour mes parents, pour le rugby, pour le monde, et puis avec tous ces clichés de virilité, comme vous en parliez il y a 2 minutes, on n'est pas faible, donc je pense que j'ai mis un peu en lumière aussi les bagages que j'avais dans mon enfance. Et puis, ça m'a permis de comprendre un petit peu ce qu'était une dépression. Parce que quand on est constamment sous pression depuis tout petit, pour faire plaisir à papa, à maman, tous les rôles que l'on peut jouer pour ses managers, pour ses professeurs, à un moment, la dépression, elle est peut-être naturelle et normale, on va dire.
Et vous parlez, Raphaël Poulain, de comportements à risque que vous avez pu adopter. Lesquels, par exemple ?
Alors déjà dans ma carrière, je pense que j'étais dans une forme d'invulnérabilité, comme je le disais, donc c'était une autodestruction. J'ai eu 6 opérations en 7 ans dans ma carrière, mais il y avait le déni du corps qui lâche. Donc voilà, je pense qu'il y a un déni psychologique de ne pas accepter le fait d'être accompagné aussi psychologiquement. On n'en parlait pas à l'époque. Des addictions, je pense que boire une demi-bouteille de rhum tous les week-ends en troisième mi-temps, c'était déjà latent chez moi. Et puis après... Oui, des comportements, une forme de manipulation psychologique et les coups psychologiques sur la personne qui est en face démontrent aussi des failles. J'ai un peu manipulé, objectalisé. Et puis à un moment, il y a une rupture en fait dans mon couple qui m'a amené à tomber et puis après à me relever au fur et à mesure. Donc, je pense que ce sont des comportements qui sont, vus de l'extérieur, je dirais... il y a des alertes, mais quand on le vit à l'intérieur, on est vraiment dans un espèce de déni où on se dit que tout va bien et puis on ne se plaint pas. Donc, mettre en mots, je pense qu'il y a aussi des boulimies, l'addiction aussi à la philosophie, qui est tout aussi dangereux qu'un rail de coke, je pense, parce que j'en suis devenu co-dogmatique sans m'en rendre compte. Donc, je m'étais formé une carapace de mec super gaillard pendant 27 ans, je me suis formé une carapace de mec super intelligent en apparence. Le problème, c'est que j'étais creux à l'intérieur et j'étais vide. Donc, il a fallu exploser, je pense. J'ai des amis, moi, qui sont tombés, qui ne se sont pas relevés, qui se sont suicidés. Donc, je n'en suis pas arrivé là. J'ai eu des pensées suicidaires aussi. Et puis, il y a un moment où j'ai accepté d'aller voir quelqu'un. Et puis là, ça a été une forme de renaissance.
Docteur Sarah Smadja, je me tourne vers vous. Raphaël Poulain évoque un déni. Est-ce que ce déni est fréquent chez les hommes atteints, notamment, de dépression?
Alors, c'est fréquent chez les hommes et chez les femmes, déjà, il faut le rappeler. Enfin, le déni de la dépression, le tabou de la dépression, ça surajoute au retard diagnostique et aux difficultés ensuite de prise en charge. Mais c'est vrai que chez les hommes, on l'a vu, l'accès... la reconnaissance d'être en difficulté, l'accès au fait de demander de l'aide externe, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est sûr que les hommes ont encore plus de mal et sont encore plus dans le déni.
Raphaël Poulain, en préparant cette émission avec ma collègue Ophélie Lassène, vous avez dit on ne parle que du mental de guerrier, alors notamment bien sûr dans le monde du rugby, mais pas de santé mentale. Est-ce que vous avez eu du mal à assumer ces troubles dépressifs, justement, et du mal à les assumer auprès de vous-même d'abord et puis bien sûr auprès des autres? Est-ce qu'il y avait une forme de honte?
Non, parce que ma mère a traversé 11 ans de cancer et en fait s'est penchée sur les médecines parallèles et aussi sur la psychologie, essayer de se développer aussi spirituellement. Donc je pense qu'on était, assez ouverts dans la famille à en parler. Mes sœurs aussi ont traversé des moments compliqués. Donc voilà, il y avait des débats autour de cette problématique. Donc on l'a humanisé grâce à la maladie de ma maman. Et puis après, derrière, le bouquin, comme vous en parliez, est sorti. J'ai eu beaucoup de retours, en fait, après, derrière, de sportives et de sportifs en off, qui m'ont dit que ça faisait du bien de pouvoir avoir accès, justement, à ce genre de livre. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte des suicides dans le rugby. Et j'en ai parlé assez ouvertement depuis 2014. Donc, j'ai pas eu de tabou du fait d'en parler. Parce que je savais que j'avais cette vulnérabilité en moi, qui est une force. Et je savais pourquoi j'avais arrêté le rugby. Donc, tout ce que j'ai mis en place depuis ces 15 dernières années, j'ai enlevé un petit peu le tabou assez rapidement d'en parler parce que je me suis rendu compte que plus on en parle, déjà, mieux on se sent. Et puis derrière, les gens peuvent s'identifier et on peut leur donner aussi accès, justement, à de l'aide par un partage d'expérience comme j'ai pu le faire tout au long de ces années. Donc, j'ai pas eu cette peur du jugement
cette peur du regard des autres. Docteur Sarah Smadja, vous voulez réagir?
Oui, je voulais réagir parce que c'est vraiment salutaire votre démarche, Raphaël Poulain, et merci parce que vous avez ouvert la voie, je pense, au fait que les personnes en parlent, et notamment les personnalités publiques, parce qu'on l'a vu depuis plusieurs années, les langues se délient, c'est très important. C'est très important pour la population générale parce que ça permet de s'identifier et ça permet d'aller consulter. Et c'est ce qu'on a vu aussi au cours de l'été avec avec les JO où beaucoup d'athlètes ont pris la parole et je pense que vous avez vraiment ouvert
notamment
la voie.
Notamment sur la difficulté de la reconversion professionnelle, la difficulté aussi de l'après-épreuve, de l'après-compétition. Et puis, il y a aussi d'autres personnalités publiques dans la musique, dans la culture.
Par exemple, il y en a eu plein. Et j'ajouterais juste, sur le risque suicidaire, vous en avez beaucoup parlé. Je voulais juste rappeler un numéro de téléphone, le 3114, pour les personnes, les auditeurs qui nous écoutent.
En France. Voilà,
3114 en France pour appeler en cas d'idée suicidaire.
Raphaël Poulain, vous avez depuis fondé l'association Néo Héros, dont vous êtes le directeur, avec l'idée de faire de la prévention en santé mentale. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement et pourquoi maintenant c'est important pour vous de sensibiliser sur ce sujet ?
Ouais, j'avais lancé au sortir de mon bouquin il y a 10 ans une volonté de sensibiliser et prévenir. Le problème, c'est que le monde du rugby, qui est un petit peu caricature de la société sur l'aspect masculin, bonhomme, vulgairement des couilles et du cœur, on m'a dit que j'avais 10 ans d'avance. Au sortir du Covid, quand Christophe Dominici s'est suicidé, j'ai créé cette association avec avec des amis, en fait, pour prévenir avant, pendant et après carrière de l'importance de prendre soin de sa santé mentale, parce que je me suis rendu compte à travers tous les témoignages et puis les suicides au fur et à mesure qu'il y avait une vraie problématique. Donc notre volonté, c'est à travers des parcours inspirants. Donc on a des ambassadrices et des ambassadeurs chez Néo Héros qui peuvent aller dans le monde de l'entreprise, dans le monde du sport, chez les adolescents, témoigner de ce qu'ils ont vécu pour dire ben voilà comment je m'en suis sorti, voilà ce que j'ai vécu, voilà quand j'ai été en haut de l'affiche, voilà les moments dépressifs que j'ai pu vivre aussi, les addictions, l'alcool, le sexe, le jeu, voilà sans tabou, de parler d'un espèce de voyage initiatique que peuvent vivre ces sportives et ces sportifs pour que, bah, comme on le disait, les gens puissent s'identifier et se dire « Ah oui, mais si lui, il l'a vécu et si lui, il a fait ça, et bien peut-être que moi, je pourrais peut-être le faire. » Et aujourd'hui, notre première action qu'on a menée avec la Ligue nationale de rugby, c'est d'aller dans les clubs professionnels pour parler aux joueurs, au staff et aussi aux jeunes dans les centres de formation. À travers mon témoignage, j'ai un psychologue clinicien qui s'appelle Jean-Luc Douillard, qui lui aussi vulgarise, explique un petit peu ce qui peut se passer dans les bons moments, aussi dans les moments plus compliqués, d'une blessure, de la précarrière, vous en avez parlé. La précarrière, c'est qu'est-ce qu'on fait de son corps, qu'est-ce qu'on fait de ses émotions, qu'est-ce qu'on fait de son fameux mental de guerrier ou de guerrière, je parle aussi aux femmes, bien entendu, qu'est-ce qu'on fait de sa spiritualité, qu'est-ce qu'on fait dans le monde d'après, dans le monde normal, où on passe de 5, 10, 15, 20 000 euros par mois à 2, 3 000 euros par mois, parfois le RSA, parfois... Donc il y a toutes ces problématiques qu'on met en lumière, et puis on apporte des solutions. Vous parliez du 31-14, la Ligue nationale de rugby a mis en place un numéro, celui de Jean-Luc Douillard, qui prend aussi en charge les sportifs. Et aujourd'hui, on a commencé en septembre, on a fait 20 clubs, et il y a aujourd'hui 15 joueurs qui ont appelé de manière anonyme pour pouvoir être accompagnés. Donc c'est une vraie réussite. Et notre volonté, c'est vraiment de témoigner, de prévenir, et puis de proposer de l'accompagnement, le 31-14 ou d'autres solutions. Il y a aussi Mon Soutien Psy, qui peut apporter aussi
sur Internet
ce soutien.
Briser le tabou donc sur ces questions de santé mentale, au plus tôt pour les hommes et pour les femmes. C'est devenu votre nouveau combat, Raphaël Poulain. Merci beaucoup. Je rappelle que vous avez été rugbyman professionnel et puis vous avez coécrit l'ouvrage Quand j'étais Superman. Un grand merci. Alors, comment mettre fin à ce déchaînement de violence dans la tête? Comment les faire taire, ces pensées dépressives qui nous font vivre un enfer? C'est ce combat que nous raconte le chanteur belge Stromae, on en parlait, dans sa chanson « L'enfer ». On se retrouve juste après.
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup,
J'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer.
Matin, parlons-en. Là, il est 11h. T'es déjà vidé par ce combat nocturne contre toi-même, où la conclusion c'était qu'il fallait mieux que tu finisses au bout d'une corde, et quand t'ouvres les yeux, tu te rends compte que t'es même pas mort. Et là, tu comprends pas comment tu vas faire pour supporter tout ça une journée de plus. Parce que la journée, elle va pas être plus rose que ta nuit blanche. Non, non. Mettre un pied devant l'autre, ça te paraît le bout du monde. Si t'as réussi à atteindre le frigo vers 13h, c'est plutôt une bonne journée. Victoire ! T'as ouvert le frigo. Sauf que t'as pas faim. T'es même carrément nauséeux et t'as envie de rien. La dépression, elle te sape tes instincts de survie. Tu dors pas, tu manges pas, tu bouges pas. Donc le reste, forcément, tu peux oublier aussi. Parce que quand t'es pas capable de dormir, de t'alimenter et de sortir de ton lit, tu peux faire une croix sur les choses plus subtiles que les êtres humains font d'habitude. Se souvenir de ce que t'as fait il y a deux jours, discuter, sortir de chez soi, ne serait-ce que pour aller chercher ton courrier. Là, par exemple, je fais totalement semblant de lire, alors que j'ai toujours pas compris les trois premières lignes.
Non mais sérieux, tu trouves pas qu'il y a un truc bizarre? Ils ont payé l'arbitre ou quoi?
La dépression, elle est bien installée quand t'as plus de plaisir à rien.
C'est mauvais.
Mais rien.
C'est mauvais.
Le plaisir. Personne ne pense qu'on peut le perdre, hein. On a même tendance à croire que c'est la cerise sur le gâteau. Alors qu'en fait, c'est le nerf de la guerre. Et toi, t'es même plus capable de l'imaginer. La dépression, elle te vole tout. Le petit verre en terrasse dès les premiers rayons du soleil. La musique qui t'emporte. La caresse de l'eau sous la douche. Et puis ce sentiment ultime quand tu regardes la femme qui s'est invitée dans ton cœur, penchée à demi-nue au-dessus de toi. Rien. Pas l'amorce d'un soubresaut de petits kiffs. Le néant. Sans fin.
Nouvel extrait du court-métrage « Et toi, ça va ?» dont on a entendu le début tout à l'heure. On va d'ailleurs mettre le lien de cette vidéo YouTube sur notre page internet de l'émission. Ce court-métrage, Dr Sarah Smadja, raconte donc l'histoire d'un homme qui traverse une dépression et qui arrive, tant bien que mal, à donner le change. Et ça pose aussi la question de l'entourage. Quelles peuvent être les réactions de nos proches ?
Alors, c'est une question très importante parce que les proches, bien souvent, en fait, d'abord, ils ne voient pas. Ils ne voient pas, alors, parce que, comme dans cet enregistrement vidéo, y a une forme à la fois de déni, puis une forme de « on fait semblant d'aller bien parce que les autres ne peuvent pas comprendre ». Et donc, l'entourage, il met souvent du temps à voir qu'il y a un truc qui a changé, qu'il y a une cassure. Et puis, la dépression, c'est une maladie qui reste taboue. Et donc, on met ça de côté. C'est pas possible que ça touche notre famille, la dépression. Nous, les troubles psy, c'est pas chez nous. C'est ça, les pensées qui viennent d'abord. Et donc, on explique des changements de comportement par d'autres choses. Un deuil, un changement
oui,
de travail.
Cause.
Il faut une cause. Alors que parfois, déjà, il n'y a pas forcément de cause. Ou ça peut être une cause minime qui survient, un facteur de stress minime et ensuite la dépression. Et donc, c'est plutôt le déni, la première réaction de l'entourage et la recherche d'autre chose que la maladie.
Et on peut entendre des phrases comme « il faut se bouger »,« arrêter de se plaindre », d'autres ont de vraies raisons de souffrir. Qu'est-ce qu'on peut répondre justement à celles et ceux qui sont assez nombreux, qui ont cette vision de la dépression ? Pour qui c'est une question de volonté ?
Et alors ça, c'est terrible pour les patients qui souffrent de dépression d'entendre ces phrases-là, parce que ça touche au fait que c'est de leur faute, qu'ils n'ont qu'à faire un effort pour aller mieux. Sauf que justement, c'est très bien expliqué dans cette vidéo, il y a quelque chose de cassé, l'effort n'est plus possible, l'envie n'est plus là. Donc, ce qui est douloureux pour eux, et ce qu'il faut rappeler à l'entourage, c'est bien que c'est une maladie, que la dépression, c'est pas un simple vague à l'âme, que c'est une maladie avec des critères, une maladie qui se soigne, mais qu'il faut reconnaître et il faut en parler, comme pour cette émission, comme comme le témoignage de Raphaël Poulain, c'est très important pour. Voilà.
Et on va continuer d'en parler. On va donner la parole à un auditeur tout de suite, Gaston, qui est à Gomain en RDC. Bonjour Gaston.
Bonjour, bonjour Nathalie, merci beaucoup.
C'est Charlie, mais c'est pas grave. Enchanté Gaston. Alors, vous avez 31 ans, Gaston, on vous écoute.
Oui, j'avais un problème, j'étais un peu bref pour ne pas prendre beaucoup de temps. Et j'ai remarqué que je présente la dépression liée à la guerre, parce qu'ici, où nous sommes, il y a la guerre, il y a l'occupation des rebelles. Alors, je me suis retrouvé, après la guerre, j'ai présenté beaucoup de signes dont moi-même je ne comprends plus. D'abord, les signes là, des sentiments de regret, des sentiments aussi de désespoir et de la peur surtout. À chaque fois que je me retrouve, j'ai de la peur et je suis tellement désespéré. Je ne vais même plus rester avec les gens. Je suis toujours seul, enfermé à la maison. Et autre chose est aussi que j'ai perdu mon emploi, surtout mon boulot. Tout ça, ça me stresse d'une façon incroyable.
Et Gaston, je me permets de vous demander, vous avez perdu votre travail à cause de ça, vous pensez, à cause justement de ces problèmes dépressifs dont vous souffrez?
Pardon, vous dites...
Vous avez perdu votre travail à cause justement de votre tristesse, de votre manque de motivation, comme vous le décrivez?
Non, j'avais perdu mon travail bien avant. Après
D'accord.
de la guerre, c'est moi, parce que ça s'est coupé. Et le contrat s'est arrêté à cause de la guerre, comme ça.
Oui, la prise de Goma le 28 janvier dernier par les rebelles du M23. Donc vous le dites, hein, vous n'avez envie de rien aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez pu constater d'autre comme symptôme, Gaston?
Oui, ce que j'ai constaté le plus pire, que je me suis retrouvé, que je suis devenu un peu impuissant, je peux dire impuissant vraiment. Donc l'impuissance, c'est seulement m'a servi alors que je n'étais pas comme ça avant.
Impuissant, c'est-à-dire que vous avez du mal à entrer en érection.
Oui, à faire l'érection. Et à un moment donné, j'ai essayé, mais j'ai remarqué encore l'éjaculation précoce. J'ai décidé de ne plus faire et laisser directement la sexualité, c'est un peu ça.
Donc il y a eu un impact aussi sur votre libido, sur votre sexualité. Est-ce que vous avez déjà essayé de consulter un psychologue, Gaston?
Vraiment, j'ai essayé de consulter 3 psychologues, mais et tous, je les ai trouvés, ils ont eu des problèmes. Ça ne m'a pas vraiment facilité d'être consulté surtout.
Vous n'avez pas réussi à les voir, c'est ça?
Je les ai vus comme ça. Le premier psychologue que j'ai vu, je lui ai rencontré, il a fait un accident.
Ah,
et
donc
le deuxième
psychologue,
je lui ai... Oui, je l'ai rencontré, je l'ai trouvé encore, il était malade, donc il est malade jusqu'à maintenant. Et le troisième, je l'ai rencontré hier, et il m'a dit que... Lui encore commence à me parler ses difficultés, je me suis dit non, ici, je n'aurai rien, il faut c'est moi que je laisse, c'est comme ça.
Donc vous n'avez pas trouvé d'aide ou d'écoute chez les psychologues que vous avez pu essayer de consulter. Donc vous vous interrogez en fait, Gaston, hein, sur est-ce que vous présentez des signes de dépression aujourd'hui?
Oui, c'est ça. Je me demande si tous ces signes que je vois ici, ce sont les signes de dépression ou comment? C'est un peu ça ma question, parce que moi je ne suis pas mixé aux psychologues, c'est un peu ça.
Et vous restez aussi, je crois, beaucoup seul chez vous la journée, c'est ça? Vous avez du mal à voir d'autres personnes?
Oui, je reste seul la journée et la nuit, tellement il y a des tueries et tout qu'on sort. Bon, je ne suis pas vraiment stable, je suis tellement instable.
Un grand merci en tout cas, Gaston, pour votre témoignage et puis pour votre confiance. Docteur Sarah Smadja, que vous inspire là ce que nous partage Gaston? Qu'est-ce que vous pourriez lui répondre?
Alors, dans l'histoire de Gaston, il y a déjà 2 facteurs de stress majeurs. Hein, la guerre, la perte d'un emploi, ça c'est des énormes facteurs de stress qui peuvent déstabiliser l'humeur. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est depuis combien de temps il a ces symptômes, Gaston. Les critères, c'est 15 jours et il a suffisamment de critères là, en tout cas suffisamment de symptômes pour dire que c'est un épisode dépressif qu'il traverse. Il y a un manque d'envie, une absence de plaisir qui sont présents, l'isolement social qui en découle et aussi le sentiment de culpabilité de tout ça. Et en plus de ça, il y a ce que j'ai qualifié tout à l'heure de troubles des fonctions instinctuelles, c'est-à-dire là, les troubles de la libido qui sont présents lors d'un épisode dépressif. Donc là, il a tous les critères pour parler d'un épisode. Il faut qu'il soit traité. Et au-delà peut-être de la consultation d'un psychologue, qui peut être une première étape, peut-être que c'est une consultation médicale, que ce soit un médecin généraliste ou un psychiatre, pour voir si un traitement serait envisageable.
Avec des antidépresseurs notamment ?
Tout à fait. C'est le traitement de base, le traitement médicamenteux, mais c'est pas que ça, un traitement de la dépression, c'est une prise en charge globale qui est à la fois avec des thérapeutiques médicamenteuses, mais aussi avec une prise en charge psychologique, notamment des thérapies cognitivo-comportementales qui fonctionnent très bien.
En tout cas, ce qu'on peut peut-être dire à Gaston, c'est que la dépression, c'est une maladie qui se soigne.
Tout à fait.
Gaston, vous voulez réagir ?
Oui, je voulais réagir ici. Si, comme c'est la dépression, je voulais demander au docteur si ça peut aussi provoquer ce que je vois là, la faiblesse sexuelle et tout comme ça.
L'impuissance sexuelle, hein, c'est ça ?
Oui, oui.
Oui, alors justement, le docteur Saras Maja disait que c'est assez fréquent,
oui,
en tout cas, ça peut arriver.
Ça fait partie des symptômes de la dépression. En effet, l'ensemble des troubles de la libido, hein, au sens large, c'est un symptôme de la dépression.
Merci en tout cas, Gaston, d'avoir participé à notre émission. Docteur Saras Maja, restez avec nous. On va joindre une de vos consoeurs au Sénégal. Bonjour, professeur Aïda Sylla.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service de psychiatrie à l'université Cheikh Diop, hein, qui se situe au sein de l'hôpital de Fan à Dakar. On vous retrouve dans un instant.
RFI à Dakar. 92 FM.
L'heure est grave. Interpellé na ñu bari ci lettre bobu nga xamné mom matar bind nako lata muy deudou ndax mi ngi wax ci lettre bi ni peut-être que ma mort ouvrira les yeux à certains étudiants et certaines familles. N'isolez personne. N'ignorez personne. Ne vous moquez de personne. Et ne fuyez personne.
Le suicide d'un étudiant sénégalais à Saint-Louis la semaine dernière suscite une vague d'émotions sur les réseaux sociaux et dans les médias du pays. Matar Diagne, 27 ans, a mis fin à ses jours en laissant une lettre d'adieu, hein, dont on vient d'entendre un extrait qui était diffusé sur la chaîne de télévision TFM. Il écrit notamment dans sa lettre « La douleur physique, ce n'est rien, mais celle du cœur est infernale ». Alors ce drame est l'occasion, hein, pour les médias sénégalais de revenir sur le mal-être étudiant, mais aussi sur le tabou qui existe autour de la santé mentale, notamment chez les hommes. Comment vous voyez cela, vous, professeur Sylla, avec vos lunettes de psychiatre au Sénégal ?
Oui, merci, vous venez de le dire. Ces derniers jours, c'est un événement qui a secoué tout le pays. Et je pense que le fait qu'il y ait eu une lettre écrite et surtout diffusée sur les réseaux sociaux n'est pas étranger à cela, parce que même si nous avons l'habitude de voir des cas de suicide, il me semble que c'est la première fois que nous avons une lettre d'un suicidé diffusée à une si grande échelle. Et cela a appelé effectivement beaucoup, beaucoup de réactions. Et nous, les acteurs de santé mentale, en avons profité pour faire une sensibilisation des populations qui semble méconnaître les signes précurseurs de ces conduites suicidaires-là.
Alors justement, on a reçu le message d'un auditeur à Abidjan, Idrissa, qui nous écrit, je vais vous lire son message, « Pourquoi la santé mentale est-elle si peu prise au sérieux dans nos sociétés africaines ? Pourquoi est-il si difficile de trouver un accompagnement psychologique bienveillant et accessible ? Que faire pour mieux sensibiliser sur l'importance du bien-être mental, surtout auprès de jeunes qui, comme moi, passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux en cherchant un refuge ?» Professeur Aïda Sylla, il y a beaucoup de questions, hein, bien sûr, dans le message de cet auditeur, mais qu'est-ce qu'on peut lui répondre ?
Alors, essentiellement, c'est l'accès aux soins. Ça, c'est indéniable dans tous les pays africains. Je crois que c'est un sort qui est partagé. Il n'y a pas beaucoup de structures dédiées à la santé mentale, pas beaucoup de spécialistes. En plus, nous concevons que cela puisse être des soins coûteux pour une population qui est pauvre. Mais d'un autre côté aussi, il y a la méconnaissance des symptômes par la population. Tout à l'heure, en parlant de dépression, bon, je me rendais compte que c'était aussi la réalité ailleurs. Et quelqu'un qui se sent paresseux, malheureux, grincheux, ne pensera pas d'emblée à un problème psychiatrique, même pas à un problème médical. Et quand il faut consulter, en premier lieu, ça va être après avoir guetté et trouvé des symptômes comme des douleurs, comme les difficultés sexuelles, etc., pour pouvoir dire quelque chose à un médecin.
Est-ce qu'on connaît la prévalence de la dépression au Sénégal ?
Oui, nous avons eu des statistiques et cela tourne autour de 1,5 à 2 % sur cet échantillon. Mais au niveau hospitalier, on a des chiffres beaucoup plus élevés parce que ça va constituer 30 % ou plus de nos consultations.
Alors aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous parlons de la dépression au masculin. Est-ce que vous, parmi vos patients, vous avez des hommes qui souffrent de dépression ? Et si oui, comment c'est perçu chez ces mêmes patients ? Comment est-ce qu'ils voient ça ?
Oui, ils ont cette difficulté à consulter pour de la dépression. Nous avons beaucoup plus de femmes qui consultent que d'hommes, dans une proportion de 60% de femmes, 40% d'hommes, concernant spécifiquement la dépression, parce que les femmes peuvent plus facilement parler de ce qu'elles ressentent. Et je pense que même pour les autres disciplines, il y a toujours une majorité de femmes qui vont aller vers les structures de santé. Et pour un homme, se plaindre de tristesse, de désarroi, c'est pas ce qui est forcément le mieux vu dans nos sociétés.
Et on imagine que cette perception peut constituer un frein à la prise en charge pour ces hommes. Ils vont tarder à venir vous voir.
Parfaitement. Et malheureusement, trouver des solutions. L'une des solutions qu'on va voir, c'est aller voir un guérisseur qui va attribuer les symptômes à l'autre. Vous avez subi un sort, c'est un collègue de travail, c'est quelqu'un qui est jaloux, etc. Ou bien voir parfois le généraliste pour les difficultés sexuelles, l'urologue, ou passer à une alcoolisation massive. Parfois, nous avons reçu des patients qui avaient des problèmes d'addiction à l'alcool et c'est après avoir évalué que nous voyons qu'il s'agissait effectivement d'une dépression.
Est-ce que lors de vos consultations, il vous arrive de prendre le temps avec ces hommes, avec ces patients, de déconstruire les idées qu'ils peuvent avoir sur la dépression, sur cette maladie ?
Ah, parfaitement, parfaitement. Lorsque les gens font tout un itinéraire thérapeutique, lorsque dans l'entretien, ils voient que le psychiatre comprend que l'on puisse perdre goût à la vie, que l'on n'aime plus ce qu'on aimait auparavant, que l'on ne puisse plus décoller de ses lits, ça les rassure au point où c'est eux-mêmes qui vont parler. Parce qu'ils se disent, ah, au moins j'ai un problème qui est réel et qui peut être compris. Et là, ils vont en parler. Et cela les soulage effectivement de voir qu'il s'agit d'une maladie, que ça existe et que d'autres en souffrent. Tout à fait, et je crois que c'est même une partie de leur traitement.
Ils ne sont pas seuls. Docteur Sarah Smadja, est-ce que vous aussi, vous prenez le temps de cette déconstruction des idées reçues avec vos patients masculins ?
Ah, bien sûr, c'est essentiel. C'est essentiel pour qu'ils puissent s'inscrire dans les soins sur du moyen long cours, parce que s'ils arrivent et qu'ils n'arrivent pas à reconnaître les symptômes dépressifs, ils ne prendront pas le traitement, et qu'il soit médicamenteux ou psychothérapeutique qu'on préconise.
Professeur Aïda Silla, quel travail de prévention reste-t-il à mener, selon vous, auprès des populations au Sénégal, notamment?
C'est essentiellement la sensibilisation, essentiellement par le biais des missions, par le biais des réseaux sociaux. Expliquer ce que c'est que la dépression, en expliquer les symptômes, mais aussi dans des programmes de prévention scolaire qui vont viser essentiellement les jeunes pour qu'ils comprennent qu'on peut souffrir d'une maladie qui va nous rendre tristes sans raison, qui va nous rendre paresseux sans raison, qui va faire que nous soyons en colère contre tout le monde, que nous ne puissions même plus apprécier un match de football à la télé alors qu'on aimait ça, que, comme le disait un de mes patients, que je ne regarde même plus mon épouse, que je ne puisse même plus avoir une satisfaction sexuelle, que les gens comprennent qu'il s'agit de maladies et qu'ils peuvent être aidés par un spécialiste à sortir de ce cocon douloureux.
Et espérons que cette triste actualité dont on parlait tout à l'heure, le suicide de cet étudiant à Saint-Louis, permettra de contribuer à ouvrir le débat. Merci professeur Aïda Silla, merci à vous pour votre temps. Je rappelle que vous êtes chef du service de psychiatrie à l'université Cheikh Diop au sein de l'hôpital de Fane à Dakar au Sénégal. Et je vous propose maintenant, docteur Sarah Smadja, d'écouter le témoignage d'un auditeur, Enoch, qui nous a laissé un message sur WhatsApp depuis Brazzaville.
Il y a quelques semaines, au niveau de mon travail, une grosse somme d'argent a disparu. On a mené des recherches, on n'a pas pu retrouver l'argent ni la personne qui a pris l'argent. Et notre superviseur, le chef, il a décidé de diviser l'argent au nombre des personnes qui étaient présentes. Et vraiment, c'est une grosse somme que chacun de nous doit donner. Et vu qu'actuellement, je traverse une très mauvaise passe, je me pose la question concernant l'argent que je dois donner. Je n'arrive pas à dormir la nuit. J'ai des crises d'angoisse. Je procrastine. Je vomis. Récompensant à la situation, j'ai des tremblements. Quand je pense à la situation, je transpire et vraiment ça ne va pas. Je dois dire même que je suis tombé malade tellement la situation me préoccupe. Et je ne sais pas si c'est réellement de la dépression, mais je n'ai qu'une question. Et si c'est la dépression, que dois-je faire pour me soulager avant que je puisse régler ces problèmes?
Docteur Sarah Smadja, Enoch, cet auditeur nous parle donc d'un événement soudain, en l'occurrence un problème financier qui semble avoir causé chez lui un épisode dépressif.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'à ce stade, ça a causé chez lui une réaction aiguë de stress en réponse à ce facteur financier. Ce qu'il faudrait savoir, c'est si ça va s'inscrire dans la durée, les symptômes qu'il présente, ou si ça reste très aigu et très, si ça passe avec le temps. Ça peut être en tout cas le début d'un épisode dépressif. On voit, il décrit des manifestations anxieuses, donc avec des symptômes somatiques de stress, les tremblements, la transpiration, les vomissements. Et donc, il faut ensuite voir si ça s'inscrit dans le temps.
On a reçu aussi la question d'Ibrahim Agarwa au Cameroun. Il nous écrit « Ma dépression est due à l'anxiété et au fait que je n'ai pas d'emploi. J'ai des pensées négatives et je ressens une colère envers moi-même et envers les autres. J'ai des difficultés à me concentrer et je ressens une fatigue constante. Est-ce que cette fatigue peut être due à la dépression ?» Alors, c'est vrai qu'on dit que la fatigue chronique, ça peut être un des symptômes, docteur Sarah Smadja ?
Tout à fait. Alors, la dépression, elle a plein de masques possibles et ça peut s'exprimer de cette façon, notamment par un grand ralentissement psychomoteur, donc la pensée qui est un peu plus ralentie, et puis la fatigue, le fait de ne plus sortir de son lit, de s'isoler, d'avoir l'impression que il faut soutenir un effort très important par rapport à d'habitude pour arriver au même but. Alors, ce qu'il décrit aussi, c'est la colère. La colère, on l'a vu, c'est quand même l'expression d'un symptôme plutôt masculin, colère envers lui-même ou envers les autres, là.
Exactement. Alors, docteur Sarah Smadja, peut-être comment aider un ami, un frère, un fils qui souffrirait de dépression? On parlait de l'entourage tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider un proche?
Alors, c'est une question capitale. Pour aider un proche, ça veut dire qu'on a soi-même, en tant que proche, reconnu qu'il avait potentiellement des symptômes d'une dépression, et donc faut lui en parler. Faut en parler, faut le déculpabiliser en disant que ce sont des choses qui arrivent, et il faut l'inviter à consulter, en étant éventuellement accompagné, consulter un psychiatre, un psychologue, un médecin généraliste, en fonction du degré d'impact sur sa vie. C'est ça qui permet d'orienter, mais il faut en parler. surtout.
Et puis, hein, donc, savoir que la dépression, c'est une maladie qui se soigne. Et aussi, autre message peut-être important à retenir aujourd'hui, être un homme, c'est aussi savoir demander de l'aide.
Tout à fait. Il faut que les hommes arrivent maintenant à demander de l'aide.
Et ils ne seront pas faibles, pas vulnérables, comme on pourrait l'imaginer.
Bien sûr que non.
Une dernière question peut-être, parmi les conseils aussi à donner à ces patients qui peuvent être concernés, l'idée d'avoir une bonne hygiène de vie aussi, hein, d'essayer de dormir, de bien manger, ça peut quand même aider en attendant de consulter ou même quand on a commencé à consulter.
Oui, alors l'hygiène de vie, c'est une règle de vie de base en fait. C'est-à-dire que avoir un sommeil de qualité, pas consommer de toxiques, avoir une alimentation saine, c'est le garant d'une bonne santé physique et psychique. Et donc, évidemment, si les symptômes dépressifs commencent à arriver, il faut faire très attention et s'écouter quand on est fatigué, se reposer, manger sainement pour ensuite, malgré tout, consulter si les symptômes persistent.
Et aller mieux, hein, bien sûr, donc, puisque ça se soigne, la dépression. Un grand merci, docteur Sarah Smadja, d'être venue parler de ces dépressions au masculin. Priorité santé touche à sa fin. Et je vous propose de nous quitter sur un titre de la playlist de RFI, Sarah Balland. C'est signé Séni Camara et Cory Sesnek. Hey, Zaraba is my homeland. Goody, goody, Zaraba, yay. Lola, Zaraba. Goody, goody, Zaraba, yay. Lola, Zaraba. Hey, Zaraba is my homeland. Et priorité santé, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi notre émission. Merci pour vos appels et vos messages. Merci aussi, bien sûr, à toute l'équipe en coulisses. Ophélie Lassen, Louise Kaledek, Talim Pouo, Julia Pache, Inès Yazidi, Thibaut Mata et Victor Hull à la réalisation. Et demain, dans Priorité santé, comme chaque vendredi, un médecin répond à vos questions, chères auditrices. Et on va parler de l'impact que peuvent avoir les écrans sur notre enfant. Quels sont les risques pour son développement et sa santé? Quelles limites faut-il fixer pour éviter une surexposition néfaste? On en parle demain. À demain!